France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre, et la technique ce matin c'est Dalia. L'Europe est en quête de nouveaux partenaires face à des États-Unis désormais hostiles. Bruxelles renforce ses liens avec des pays des Suds qui veulent que leurs intérêts aussi soient pris en compte. L'Europe sort le grand jeu. C'est notre nouvelle série cette semaine. On parlera de l'Inde, du continent africain et de l'Asie centrale, précisément du Kazakhstan. Aujourd'hui, avec l'Amérique latine, l'Europe parle bœuf et valeurs communes.
This agreement sends a very strong message to the world.
Ce traité commercial entre l'Union européenne et le Mercosur envoie un message très fort au monde. Il reflète un choix clair et délibéré. Nous choisissons le libre-échange plutôt que les droits de douane et nous préférons un partenariat productif à long terme à l'isolement.
La réalité géopolitique et économique mondiale nous montre que l'intégration est la seule solution pour renforcer nos sociétés, moderniser notre production et devenir plus compétitif. Notre avenir se joue à travers le Mercosur et le commerce international.
L'accord confirme la décision et nous incite à aller plus loin, portés par la conviction que la liberté, le travail et l'ouverture sur le monde constituent la voie pour bâtir une Argentine plus prospère et un Mercosur moteur au niveau international.
C'est sans doute l'un des rares sujets sur lesquels Javier Milei, le président argentin que l'on vient d'entendre, et le brésilien Lula qu'il précédait, ont réussi à s'entendre, même s'ils n'en ont pas la même définition ni les mêmes attentes. L'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne après 25 ans de négociations. Les discussions engagées en 1999 se sont conclues le 17 janvier dernier dans la capitale du Paraguay, Asunción. D'un côté, les chefs d'État d'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et de la Bolivie, de l'autre les représentants de l'Union européenne. Pour célébrer cet accord de libre-échange qui lève les barrières douanières, nombre de produits agricoles ou industriels vont circuler entre les deux organisations régionales avec des taxes très allégées. La question de la viande de bœuf, élevée au Brésil notamment au prix d'une déforestation à toute vitesse et souvent piquée aux hormones, le stradiol 17-bêta, a occupé de longues années de discussions et de débats. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'Amérique latine sont justement comme deux bœufs attachés à un même joue car les deux partenaires souffrent à des degrés divers de l'impérialisme revigoré des États-Unis. La pertinence de cet accord de libre-échange est déjà largement débattue quant à ses effets probables, en particulier sur l'agriculture française. Pour une fois, c'est du côté sud-américain que l'on se place ce matin dans Culture Monde. Quelles lignes de fracture se sont révélées lors de ces négociations entre pays d'Amérique du Sud? Qu'attendent les pays du Mercosur de l'Union européenne et quelles limites lui ont-ils imposées pour ne pas la laisser prendre le dessus dans les discussions? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Kevin Partenay.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Tours. Vous avez fait paraître en 2023 chez Larcier « Politique de l'Amérique latine », un livre coécrit avec Frédéric Louot. Bonjour Carlos Kenan.
Bonjour.
Bienvenue à vous aussi, vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, vice-président de l'Institut des Amériques. Carlos Kenan, d'abord, on prend le parti encore une fois dans cette émission de se placer du point de vue des pays du Mercosur, donc d'un point de vue strictement latino-américain. Pourquoi maintenant? Comment expliquer que les deux poids lourds du Mercosur, Brésil et Argentine, qui sont en ce moment sur des lignes politiques totalement opposées, aient pu s'entendre là pour signer ce texte?
Bon, disons que un des facteurs importants, c'est le leadership du président Lula, surtout, et qui, malgré le fait que le Brésil a beaucoup de choses à protéger, si on peut dire ainsi, dans cet accord, disons, il y a des marchés publics très importants, il y a une industrie très importante, a fait le pari déjà depuis quelques années, notamment lors de son retour aux affaires, et de mettre en place cet accord pour ouvrir de nouvelles perspectives au partenariat avec, avec l'Europe, de nouveaux marchés, bien sûr, aux produits brésiliens, et misant aussi sur la possibilité d'association et des investissements, qui est une dimension très importante. Sans oublier une variable géopolitique, qui est très importante aussi chez le président Lula. Dans le cas de Milei, la convergence vient par le fait que Milei est très ultra-libéral, et donc, en principe, c'était très difficile de pouvoir s'opposer à un accord de libre-échange, justement, même si il y a des nuances à apporter, à savoir qu'au même temps qu'il y a eu la signature de cet accord, il négocie, d'ailleurs, il y a eu une réunion et un pré-accord signé le 5 février dernier, entre l'Argentine et les États-Unis pour mettre en place un accord de libre-échange également États-Unis et Argentine, qui est particulièrement sensible, par exemple, parce que les États-Unis veulent surtout ouvrir le marché de l'automobile de l'Argentine à ses propres productions.
Et ça, c'est possible, c'est-à-dire faire partie du Mercosur ne donne pas des obligations de ne pas, chacun dans son coin, signer des accords de libre-échange tous azimuts avec qui
voilà,
on
veut. Voilà, il y a une question là qui se pose, justement, oh. Normalement, le Mercosur doit négocier ensemble ce type de questions, c'est en fait, c'est un nom de marché commun du Sud, mais c'est un accord, disons, d'union douanière, avec un tarif extérieur commun, où on devrait négocier ensemble. Mais Milei négocie de son côté, et là, ça pose des tensions au sein du Mercosur.
Ce qui donne déjà une idée de la façon dont Javier Milei considère ce qu'est déjà en soi le Mercosur. La barrière que nous avons érigée finit par nous exclure, a-t-il dit récemment au sujet de cette union. C'est vrai, Kevin Partenay, que quand on parle de ces 25 ans de négociations pour aboutir à cet accord, on le voit surtout sous l'angle des dissensions entre, d'un côté, l'Union européenne et de l'autre côté, l'Amérique latine. Mais en réalité, les dissensions entre Argentine et Brésil ont beaucoup compté aussi. Mais dans quelle mesure ?
Bien sûr, elles sont très fortes. Et je crois que si on reste dans le moment présent, de savoir comment, pourquoi ça a pu avancer, pourquoi aussi il y a toujours des frictions... Les deux pays aujourd'hui se retrouvent dans une sorte d'incarnation de ce que représente le continent en termes de polarisation et de fragmentation. C'est-à-dire qu'on a deux leaders politiques qui sont à des spectres justement opposés. On a Javier Milei qui est représentant de cette droite conservatrice, illibérale, populiste, très proche de Washington, enfin qui joue de la loyauté d'ailleurs vis-à-vis de Washington de manière très forte. Et puis de l'autre côté, radicalement opposé, on a le président Lula qui est encore le bastion de cette gauche. Avec l'héritage des années, début des années 2000, gauche progressiste qui essaye de faire de la diversification commerciale, donc en gros négocier avec l'Union européenne, mais aussi avec les pays du Sud. Donc on a, à travers ces deux leaders et donc ces deux pays, l'incarnation de ce qu'est le continent aujourd'hui. Et c'est très intéressant de voir que justement, pourquoi maintenant, on a deux leaders que tout oppose, mais qui malgré tout vont, à minima sur cet accord-là, se réunir, parce qu'il y a un besoin de protection. Il y a une opportunité stratégique, il y a une opportunité géopolitique. Ils ont besoin de soutenir un accord avec l'Union européenne et ils vont se retrouver, en dépit de leurs désaccords politiques, en dépit de leur incapacité quasiment à poser ensemble pour une photo, ils vont se réunir et ils vont pouvoir signer ensemble cet accord. Mais ça n'exclut pas du freeridisme, comme on a vu avec les États-Unis ou d'autres pays.
Du freeridisme ?
Oui, alors freeridisme, c'est cette idée de jouer solo, d'essayer de faire son propre jeu dans son coin. Alors effectivement, on a un modèle d'accord là qui joue le collectif. C'est vraiment cet accord d'intégration, de coopération. Mais malgré tout, on voit là l'Argentine aujourd'hui qui essaye de tirer le meilleur avec les États-Unis. Mais c'est pas uniquement ça. On a vu récemment quand même l'Uruguay, le Paraguay qui essayait de se dire on va s'affranchir du Mercosur pour se rapprocher de la Chine aussi. Parce que chacun y voit un petit peu de son bénéfice. Donc ça va dans différentes directions.
Alors à part Javier Milei qui lui continue à discuter dans son coin avec Washington et Donald Trump, pour le reste ce sont bien les inimitiés des pays du Mercosur avec les États-Unis qui ont fini par accélérer des négociations avec l'Europe entamées il y a 25 ans. Comme l'a rappelé il y a quelques jours le président du Paraguay, Santiago Pena.
Bon, là-haut. La rhétorique de tarifas por parte del gobierno americano.
D'un côté, la rhétorique tarifaire du président états-unien a poussé tout le monde à trouver un accord entre le Mercosur et l'Union européenne. 25 années de discussion. Finalement, il a été approuvé dans les derniers jours de décembre et début janvier, il a reçu l'impulsion finale. Alors je veux dire merci au président Trump qui nous a finalement menés à cette conclusion. Je crois que tout le monde était dans un état de somnolence, que nous ne bougions pas et qu'il est venu tous nous réveiller. Il est venu défier ce que nous pensions être stable et cela nous a contraints à sortir de notre zone de confort.
Des présidents totalement endormis, d'après le président du Paraguay, Santiago Pena, qui ont été réveillés par toutes les attaques menées par Donald Trump, y compris d'ailleurs celles contre le Venezuela. Est-ce que, Carlos Kenan, vous avez pu constater dans le calendrier des rencontres entre Union européenne et Mercosur que l'attaque des États-Unis contre le Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro ont vraiment accéléré les choses ?
Pas tellement. C'était un processus qui était en route déjà. Sans doute, ça ajoute un élément supplémentaire. Mais je crois que peut-être l'essentiel, c'est dans le cadre strictement commercial de cet accord de coopération et d'investissement, et le fait que même Peña, par exemple, qui est un président d'orientation fortement libérale, prend des distances à l'égard de Trump, et parce que, et à la différence d'une part de Milei, n'a pas d'obligation particulière. Milei a bénéficié d'un sauvetage, disons, de Trump fin octobre, alors que la situation économique était pratiquement désespérée en Argentine. Alors, Peña, en tant que libéral plus traditionnel, aime par exemple les règles. Et donc, libre-échange, mais avec des règles, alors que Trump représente, certes, une poussée protectionniste, mais surtout l'utilisation des rapports de force sur la scène internationale pour obtenir des deals avantageux, quelle que soit finalement l'issue finale. Donc, de ce point de vue-là, il y a une convergence possible entre cette gauche progressiste dont on parlait à l'instant, et qui cherche une diversification, des accords, etc., avec des libéraux raisonnables. C'était le cas aussi précédemment de l'ancien président de l'Uruguay, Lacalle, qui était aussi un libéral de ce type-là.
Et un partenaire de Javier Milei, en tout cas un interlocuteur.
Un interlocuteur, mais en prenant ses distances également, et Lacalle, l'ancien président de l'Uruguay. Donc, je pense que ce qui s'est produit au Venezuela a opéré sans doute au sein des pays du Mercosur, mais aussi sans doute dans l'intérêt de l'Europe de finalement concrétiser cet accord qui était déjà présent, puisque l'Union européenne est finalement défiée par ces décisions récentes, y compris celle du Venezuela, et se situe dans une situation très très complexe où il faut agir entre, d'une part, l'aspiration, le désir, l'objectif pas uniformément partagé d'autonomie stratégique, d'une part, et les risques d'une marginalisation géopolitique et technologique. Donc l'Europe doit développer de nouveaux partenariats, et donc je pense que l'intérêt mutuel était là, et probablement les événements du Venezuela sont venus précipiter là, mais il y avait une dynamique déjà qui poussait dans ce sens.
Avec, vous le disiez l'un et l'autre, le Brésil comme vraiment moteur de cette signature, Lula, grand artisan de cet accord, en tout cas sur les dernières années. On parlait tout à l'heure des divergences entre Argentine et Brésil. Aujourd'hui, elles sont entre un président de gauche au Brésil et de droite en Argentine. Mais ça a été aussi l'inverse sous Jair Bolsonaro quand l'Argentine était dirigée par Alberto Fernandez, donc par la gauche. Donc ces divergences, elles ont très souvent empêché les discussions. Lula, Kevin Partenay, le président Lula au Brésil, s'il est un des grands partisans et artisans de cette signature, est-ce que c'est surtout pour des raisons économiques ou politiques, des enjeux aussi géopolitiques de ce pays, le Brésil, par ailleurs artisan du rapprochement avec les Suds au sein des BRICS, artisan du rapprochement, il en est même l'acteur. Voilà, plutôt économie ou politique, les considérations
Alors,
de Lula ?
Je dirais très nettement les deux. Parce que, clairement, sur le volet politique, il l'a dit d'ailleurs, il a publié une tribune qui a eu une diffusion mondiale. Hein. L'accord UE-Mercosur pardon, est une sorte de symbole du multilatéralisme contre l'isolement. C'est-à-dire que sa lecture des choses est précisément celle-ci, c'est de pouvoir répondre à un moment géopolitique. Donc la dimension politique, elle est extrêmement présente. Après, la dimension économique l'est tout autant. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude, je pense, au sein des sociétés, désormais des exécutifs latino-américains, des dangers que peut représenter l'administration Trump, notamment avec cette politique des tarifs qui place tout le monde dans une situation de vulnérabilité économique. C'est-à-dire, si on déplaît à Washington, demain on peut se retrouver avec des tarifs qui sont élevés. Sans grande justification, mais juste le fait de déplaire à Donald Trump. Donc il y a besoin de sécurité, il y a besoin de prévisibilité. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le président Lula aussi dans sa tribune en disant « c'est autant de l'économie que du multilatéralisme parce qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de prévisibilité. » Et ça, c'est plutôt ce que l'Union européenne peut donner contre Washington.
Mais, et le libre-échange comme levier de développement économique, c'est nouveau dans le discours de la gauche brésilienne ?
Non, alors c'est vrai, non, la question, c'est une très bonne question parce que ça peut vraiment apparaître comme un paradoxe. Il y a cette gauche qui se présente un peu comme le chantre d'un accord qui est du néolibéralisme dans le texte. Malgré tout, ce qu'il faut quand même toujours bien voir, c'est que le président Lula est l'incarnation de cette gauche, début des années 2000, progressiste, mais d'une gauche très pragmatique. Le président Lula n'a jamais évidemment écarté cette idée de la diversification commerciale, des investissements, de promotion du commerce, parce qu'il y a une idée qui est fondamentalement enracinée chez lui et aussi dans le Brésil, c'est la capacité du Brésil à pouvoir jouer une carte globale, c'est-à-dire de positionner le Brésil comme un acteur global. Et pour ça, vous avez beau être de gauche, vous pouvez pas tirer un trait sur l'économie mondiale. Et alors, c'est ça qui explique d'une certaine façon le paradoxe d'un président qui incarne une gauche, fait la promotion de solidarité, du multilatéralisme, de l'inclusivité sur le plan international, mais par ailleurs, il protège ses arrières d'une certaine façon en diversifiant justement ses intérêts et en négociant différents traités. Union européenne, mais aussi en fermant pas la porte non plus à Washington. Il faut aussi bien le voir, ça.
Essaye de maintenir une discussion. D'ailleurs, ils se sont appelés il n'y a pas si longtemps après que Trump lui menaçait le Brésil de monter les taxes, de les augmenter de façon vertigineuse. Finalement, les choses se sont un petit peu apaisées, ce qui n'empêche pas le président Lula d'avoir vraiment, de s'être vraiment impliqué dans l'accord avec l'Union européenne.
Et eu já avisei para eles. Se a gente não fizer agora, o Brasil...
Je les ai déjà prévenus. Si on ne le fait pas maintenant, le Brésil ne signera plus l'accord tant que je serai président. Voilà 26 ans que nous attendons cet accord. 26 ans. L'accord est plus favorable pour eux que pour nous. Macron ne veut pas le faire à cause de leurs agriculteurs, et l'Italie non plus, on ne sait pas pourquoi. Alors je vais à Foz de Iguaçu en espérant qu'ils disent oui et qu'ils ne disent pas non. Mais si jamais ils disent non, nous serons désormais fermes avec eux, parce que nous avons cédé sur tout ce qu'il était possible de céder diplomatiquement.
Le président du Brésil, Lula, en décembre dernier. Alors si l'accord est plus favorable aux Européens, comme il le dit, une manière de les convaincre de signer, alors pourquoi lui a-t-il tant tenu à ce qu'il se fasse, Carlos Kenan?
Disons que là, il y a les discours, il y a les faits. C'est pas si vrai que ça, que ça soit aussi favorable pour les Européens et défavorable pour le Brésil.
Vu des agriculteurs français, non, mais c'est un autre sujet.
Prenons juste un exemple, disons, l'industrie automobile, dont effectivement les pays de l'Union européenne, notamment les grands producteurs automobiles, en seront bénéficiés en diminuant des droits de douane qui sont aujourd'hui de 35% progressivement vers des niveaux beaucoup plus faibles. Eh bien, c'est une façon de mettre en concurrence l'industrie locale, où il y a des producteurs européens également, avec la forte percée des voitures chinoises. Et qui est à un moment un ingrédient fondamental de la conjoncture économique des pays d'Amérique du Sud, y compris aussi le cas de l'Argentine de Milei, où la pression des États-Unis pour un accord est liée à une plus grande pénétration des voitures américaines sur ce marché qui est en train d'être envahi par les Chinois. Donc,
en d'autres termes, je ne sais pas s'il est envahi, mais en tout cas, les parts de marché de la Chine en Amérique du Sud sont passées de 7 à 20% en moins de 20 ans.
Absolument. Et donc, et la présence des voitures chinoises électriques est de plus en plus importante. Donc, je pense que là, c'est un discours politique, mais en réalité, l'idée, c'est de mettre en concurrence les autres acteurs de la part de Lula, et surtout cette considération géopolitique très importante. Je reviens sur ce qui a été dit par Kevin, le rôle de global player du Brésil, son rôle au sein de BRICS, et l'idée que finalement, très ancrée dans la direction politique actuelle du Brésil, que en relançant l'interrégionalisme, c'est-à-dire les relations entre deux groupements régionaux, qui était une dynamique qui était très, très présente dans la période précédente où le multilatéralisme avait des problèmes, mais était plus ou moins vivant. Face à la situation actuelle où le multilatéralisme est vraiment à l'agonie et qu'on va s'imposer un unilatéralisme brutal de la part de l'administration Trump, ça, c'est progressiste. C'est ça la conclusion à laquelle est diversifiée. Autrement dit aussi, une libéralisation raisonnable et plus progressiste qu'un unilatéralisme brutal dont on ne sait pas où ça va nous amener.
Raisonnable, notamment quand Lula dit que le Brésil va ouvrir son marché aux entreprises étrangères tout en protégeant l'Amazonie, même si au-delà de ce discours, on sait que la réalité est plus complexe, que certes la déforestation a ralenti depuis la réélection de Lula, mais qu'elle est loin de s'être arrêtée, et que quand les regards sont tournés vers l'Amazonie, c'est le Cerrado, moins emblématique, moins luxuriant, qui trinque. Donc lui, néanmoins, il met ça dans son discours, Lula, Kevin Partenay, il dit, regardez, on signe avec l'Europe, qui partage avec nous des valeurs communes et un souci de l'environnement, même si dans les faits, c'est plus compliqué.
Oui, là aussi, il y a une ambiguïté, puis il y a une sorte d'hypocrisie peut-être du côté brésilien qu'on retrouve de longue date, hein, sur le discours environnemental, parce que Alors, on peut pas nier le fait qu'effectivement, si on regarde les chiffres par rapport à l'administration antérieure de Jair Bolsonaro, comme vous le disiez, le niveau de déforestation a baissé, mais malgré tout, il y a de profondes contradictions justement à signer ce genre d'accord qui va avoir un effet, c'est-à-dire d'accentuer quand même beaucoup la déforestation. Il y a un des aspects qui est quand même très présent, c'est cette capacité justement à pouvoir exporter de la viande en Europe, du bœuf. Pour ça, on le fait en déforestant la plupart du temps. Il y a énormément de terres qui sont brûlées pour pouvoir développer ce type d'agriculture-là. Donc il y a des contradictions, mais c'est une contradiction qui est inhérente au modèle de développement qui a été choisi par Lula, qui d'une certaine façon est reconnu par le président Lula lui-même, c'est-à-dire, et c'est tout le discours de ces pays du Sud, si on les prend de manière très très large, avec cette idée du on va pas freiner notre développement pour des considérations que vous-même n'avez pas respectées en leur temps, en s'adressant à l'Europe en l'occurrence. Si on veut se développer, si on veut favoriser l'amélioration des conditions de vie de nos populations, il faut aussi qu'on développe ce modèle d'agriculture, nos industries, et ça passe par un libéralisme, alors certes pragmatique, raisonnable, mais un libéralisme tout de même.
Donc quand on parle d'agrobusiness au Brésil, il n'y a plus de gauche ou droite qui tiennent ?
Non, c'est du pragmatisme. Le discours politique vient en surplomb, mais il y a énormément de pragmatisme vis-à-vis de tout ça. C'est un modèle qui essaye d'être atténué autant que se peut. On n'a pas forcément le temps ici, mais il faudrait renvoyer sur tout ce qui est sorti de la COP30. Il y a eu beaucoup de discours politiques, il y a eu beaucoup de promotions, de mise en avant du Brésil comme un pays vertueux sur le plan climatique, écologique.
Qui accueillait d'ailleurs la COP30
à Belém, en pleine Amazonie, pour essayer d'être ce révélateur, cet électrochoc international. Mais dans le même temps, il y a aussi de profondes contradictions, c'est-à-dire sur le fait d'accueillir ce type d'événement en pleine Amazonie aussi, sur les dégâts que ça a pu causer, et qu'on retrouve dans le modèle de développement lui-même, où il y a encore de l'extractivisme qui se développe, il y a encore de la déforestation. Donc voilà, c'est...
Le bœuf, le soja sont particulièrement concernés souhaitent atteindre ce nouveau marché que représente l'Europe pour l'agriculture latino-américaine, 450 millions de consommateurs. Peut-être juste pour vous faire réagir sur ce que disait Carlos Kenan à propos de l'industrie. On dit beaucoup que l'industrie latino-américaine, sa valeur ajoutée est 6 fois moindre, je crois, que celle qui sort des usines en Europe. Comment expliquer le communiqué enthousiaste, néanmoins, de la Confédération brésilienne de l'industrie au sujet du Mercosur? D'après les chiffres de la Banque mondiale, oui, c'est encore une fois la valeur ajoutée, c'est 6 fois moins. Donc, comment expliquer qu'on se réjouisse? Enfin, qui se réjouit? Est-ce que tous se réjouissent en Amérique latine de cette concurrence nouvelle que va représenter l'industrie européenne pour l'industrie latino-américaine?
Je pense qu'ils doivent se réjouir de l'opportunité que ça représente en termes justement d'ouverture de marché, sur les parts de marché nouvelles.
Ils voient dans l'autre sens, quoi.
Dans l'autre sens. Mais cet enthousiasme-là, il est, pour moi, c'est mon interprétation, il est rhétorique dans le sens où désormais, il n'y a plus de marche arrière, que l'accord existe. Et donc, les fédérations justement industrielles marquent un enthousiasme pour ne pas doucher froid les résultats politiques de cet accord. Mais ce qui était en jeu pendant quand même très longtemps, c'était l'effet de concurrence que justement on pouvait subir cette industrie, notamment l'automobile, pour le Brésil, puisque il y a quand même un grand gagnant dans cette affaire. On ne va pas parler de l'Europe, mais c'est l'Allemagne justement qui va pouvoir s'ouvrir les portes du marché sud-américain pour ses voitures notamment. Et ça va faire une énorme concurrence pour l'industrie automobile brésilienne qui est développée. Alors qu'il y a un marché sud-américain déjà très, très bien constitué. Mais bon, malgré tout, je pense qu'au-delà de ça, désormais, cette fédération d'industrie qui a pris la position et qui a effectivement dit qu'ils étaient enthousiastes, renvoie plutôt vers l'idée d'essayer de tirer le meilleur profit des plus grandes opportunités économiques qui vont se présenter demain.
Qu'est-ce qu'ils ont obtenu à ce sujet, d'ailleurs, les pays du Mercosur, Carlos Kenan? Est-ce que la suppression des tarifs douaniers va se faire très progressivement, plus lentement que ce qui était prévu au départ? Enfin, néanmoins, est-ce qu'ils ont réussi à obtenir quelques garanties, quelques mesures qui les permettent de se protéger un peu pendant quelques temps?
Ça va être comme tous les accords progressifs sur plusieurs années, et y compris aussi pour la pénétration de la viande bovine sur les marchés européens, qui était un sujet de conflit. Et je pense que plus généralement, ce qui est important, c'est que finalement, dans le cas du Brésil notamment, le gouvernement a réussi à établir un certain consensus sur la répartition progressive des coûts internes de ces processus-là et de mettre en valeur la valeur ajoutée, justement, de la possibilité de nouvelles parts de marché, de la possibilité d'association entre les industriels brésiliens et les industriels européens également, et puis l'élément géopolitique qui est très important au Brésil, de la présence de ce pays dans le monde, qui est un pays continent, et ça compte aussi. C'est peut-être une bonne illustration de ce qu'on n'a pas pu effectuer en France, c'est-à-dire une discussion approfondie de la répartition des coûts internes et de ce que cela signifiait, y compris non seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour la France, de pouvoir développer une diversification accrue des relations internationales dans les contextes actuels, dont la France a intérêt et a besoin, puisque c'est un pays membre du Conseil de sécurité, avec une flotte présente sur tous les océans, etc. C'est un acteur qui est à une certaine minimale dimension globale. Donc je pense que dans le cas du Brésil, il y a ça. J'ajouterai que dans le cas de ces consensus, il y a effectivement des zones d'ombre et qu'ils ont réussi à isoler les positionnements les plus extrémistes, disons, du type Bolsonaro. Parce que, certes, il y a des similitudes dans les positionnements de droite et de gauche, mais dans le cas de Bolsonaro, par exemple, la problématique de la déforestation n'était pas du tout présente parce qu'il ne pense pas au changement climatique. C'est une exclue, cette thématique-là, comme thématique importante du débat public. Alors que Lula est, quelque part, obligé d'atténuer ces effets-là parce que, lui, il est un fervent défenseur, n'est-ce pas, de la lutte pour la préservation de l'environnement.
Kevin Partenay.
Oui, ce qu'ils ont réussi quand même à gagner dans les derniers temps de négociation, c'est au moins une mesure ou un mécanisme de rééquilibrage côté latino-américain qui leur permet justement d'essayer de résister ou de tirer des compensations si justement du côté européen, certaines mesures unilatérales ou certaines dynamiques économiques viennent impacter trop durement l'industrie ou l'agriculture latino-américaine. Et ça a quand même beaucoup rythmé les derniers temps de la négociation, mécanismes de rééquilibrage, mesures de sauvegarde renforcée. Chacun essayait de se protéger à la fin.
Dans une sorte de miroir.
Alors les croises miroirs qui ont été abandonnées au final et justement qui ont donné lieu à cette mesure de sauvegarde renforcée, alors là plutôt appliquée pour les Européens en l'occurrence, mais les Latino-Américains ont quand même cherché à se protéger, ce qui dit beaucoup. Des risques que l'accord pouvait quand même induire.
Notamment en cas d'invasion de produits manufacturés européens, le Mercosur pourra revenir, alors pendant 5 ans maximum, aux taxes d'origine, donc 35% sur certains produits. Est-ce que les États d'Amérique latine et l'Union européenne, sur ce sujet, ont parlé d'égal à égal au moins ces dernières années? Est-ce que cet enjeu-là a d'ailleurs été mis sur la table, verbalisé, la question de déseurocentrer les relations, comme je l'ai lu dans un de vos articles, Kevin Partenay?
Oui, je pense que ça a été une question fondamentale. Dans la mesure où les latino-américains se sont quand même beaucoup plaints du fait que les Européens leur parlaient avec une certaine condescendance, qu'ils venaient les chercher quand eux avaient besoin et qu'il y avait une profonde asymétrie justement dans la négociation et dans les intérêts qui pouvaient en être tirés. Ce qu'on a pu voir justement après l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est que précisément l'Europe avait besoin des autres. Et ça a considérablement rebattu les cartes et rééquilibré un peu les relations. Les Latino-Américains ont clairement vu justement qu'ils avaient une capacité à rééquilibrer les discussions. Et ils l'ont dit d'ailleurs. Ils l'ont dit à l'occasion d'un forum Union Européenne-CELAC, donc la CELAC étant cette communauté d'États latino-américains et caribéens, donc organisation régionale, où ils disaient voilà, on veut que le dialogue soit équilibré et qu'il n'y ait plus d'asymétrie. Et je crois que ça a joué beaucoup pour essayer de gagner des éléments dans la négociation en fin de cycle.
C'était en 2023, c'est ça, vous parlez du sommet de Union européenne CELAC, sommet du renouveau entre guillemets en 2023, parce que ça faisait 8 ans qu'il ne s'était pas présenté. Et à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez, a pris la parole.
Si vous prenez les différents accords commerciaux dont nous discutons avec les pays d'Amérique latine depuis de nombreuses années, le meilleur moyen de s'assurer que les normes environnementales sont respectées en Amérique latine, c'est d'avancer, de signer et de ratifier ces accords. Si nous voulons que l'Amérique latine tourne le dos à l'Europe et se tourne vers d'autres acteurs qui ne partagent pas nos préoccupations pour l'environnement, alors oui, mettons ces discussions de côté.
Le ministre des Affaires étrangères espagnol, lors de ce sommet entre l'Union européenne européenne et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, la CELAC, en 2023, sommet de l'incompréhension mutuelle, comme vous aviez écrit à l'époque, Kevin Partenay, parce que à l'époque, Lula était très critique vis-à-vis des Européens sur les questions internationales, que ce soit sur l'Ukraine, sur Gaza, sur la question de l'accès aux vaccins pendant la pandémie, notamment. Carlos Kenan, est-ce que dans les réunions, les discussions, les sommets entre Union européenne et États d'Amérique du Sud, alors que ce soit le Mercosur ou un petit peu plus généralement, est-ce que vous avez entendu dans ce qui a été dit lors de ces sommets que l'Europe avait pris la mesure d'une forme de déclassement sur la scène internationale aux yeux de ses partenaires sud-américains? Est-ce que quand Josep Borrell, qui était encore chef de la diplomatie de l'UE à l'époque en 2023, disait il faut passer du statut de partenaire naturel à celui de partenaire de choix, c'était une façon de dire aux États d'Amérique du Sud, on va parler d'égal à égal?
Dans une certaine mesure, oui, parce qu'on a vu progressivement une difficulté à susciter l'intérêt des plus hautes, des plus hauts responsables latino-américains. La présence des chefs d'État, par exemple, a été assez déficitaire lors de ces sommets-là. Et d'ailleurs, c'est justement Lula qui a joué un rôle fondamental pour être présent à tout moment. Et donc, et je crois qu'il y a cet élément-là, le fait que cela a été évoqué lors de la guerre en Ukraine, et effectivement, on a vu que les pays latino-américains jouaient leur propre jeu, pour ainsi dire, et une influence grandissante aussi de la Chine et des BRICS dans ce panorama-là. Et du coup, l'avènement de l'administration Trump est venu couronner ce processus-là, où l'on a vu, en effet, que finalement, l'Union européenne a besoin d'une diversification des partenaires, et que les pays latino-américains comptent déjà en termes de voix dans les Nations Unies, même si c'est assez délaissé, tous ces sens-là, pour le moment, et que deux d'entre eux, aussi bien le Brésil, qui nous a déjà beaucoup évoqué, mais aussi le Mexique, qui joue un jeu intelligent, compte tenu des contraintes qu'il a, peuvent effectivement être des partenaires très importants. Et d'ailleurs, la mesure de cet aspect-là a été prise par la diplomatie française, qui renforce ses liens avec le Mexique ces derniers temps, avec la visite du président Macron. Donc je crois que tous ces éléments jouent dans ce sens-là et font penser effectivement que le partenariat en question doit être renouvelé, qu'il n'est pas seulement une question de valeurs, même si les valeurs prennent une importance très grande, encore une fois, l'importance des règles dans les jeux politiques et économiques internationaux, mais aussi sur le point de vue des intérêts très concrets. J'ajouterai un dernier élément très rapide, et une certaine convergence de vues qui a été évoquée lors de ces sommets, c'est par exemple la manière de traiter, disons, Elon Musk et les nouvelles compagnies, disons, les compagnies de nouvelles technologies au Brésil et en Europe. Les besoins de réguler tout ça, ça montre une convergence sur un autre plan, qui n'est pas strictement le plan commercial dont on parlait jusqu'à présent. Donc tout ça, ça tente à rapprocher et à faire en sorte que l'Europe prenne finalement conscience qu'elle doit traiter ses partenaires, prendre l'Amérique latine au sérieux. Nous écrivions avec Jean-Michel Blanquer il y a une vingtaine d'années un article de ce type dans Le Monde.
Je ne savais pas que vous aviez écrit avec Jean-Michel Blanquer.
Voilà, donc c'est le moment est arrivé de prendre l'Amérique latine au sérieux, semble-t-il.
Kevin Partenay, sur cette question de savoir sur quel sujet peut-être les pays du Mercosur ont été particulièrement pointilleux pour ne pas donner l'avantage à l'Europe. Est-ce qu'ils ont peur d'un certain goût pour leurs ressources naturelles, par exemple, s'y exposer, on le sait, aux tentatives de prédation? Est-ce que ces éléments-là, et alors la colonisation est bien peut-être plus éloignée dans les mémoires que sur le continent africain dont on parlera mercredi, mais est-ce que ça a compté?
Alors, je pense pas que, à mon sens, ça n'a pas compté à ce point dans la négociation, dans la mesure où, à la fin de la négociation, dans le dernier cycle, c'est-à-dire 2016 jusqu'à 2023, c'était vraiment des négociations à couteau tiré sur des dynamiques extrêmement précises, je veux dire sur les taux, justement, les droits qui allaient être appliqués, comment ça allait être appliqué, avec quelles mesures précisément de protection ou pas. Mais ce qui me semble important peut-être dans le moment qu'on est en train de vivre et dans ce qu'incarne aussi l'état d'esprit qu'incarne cet accord, c'est cette volonté, comme on le disait, de rééquilibrage entre les blocs régionaux. L'Union européenne, très clairement, a été, si on regarde de manière plus générale les institutions multilatérales, pas si convergent que ça avec les latino-américains. Hormis quelques sujets, on voit pas tant de convergence que ça. Alors que, précisément, l'Union européenne met toujours en avant cette idée de l'allié naturel, vous l'avez dit, allié naturel, partage des valeurs. Mais en fait, quand on regarde les faits, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si proches que ça. Et cet accord va pouvoir justement donner une impulsion pour changer cette donne-là, dans un moment précisément où on a un appel à ce qu'il y ait plus de régulation, dans un moment de dérégulation précisément qui est mise en avant par Washington. Ce que représente l'Amérique latine pour l'Europe et réciproquement, c'est cette capacité, comme je disais tout à l'heure, à rendre les choses prévisibles parce qu'elles sont régulées, elles s'appuient sur du droit international et dans ce monde où justement tout est déconstruit, eh ben on a encore plus besoin de ça et les latino-américains ont besoin de ça.
Pardon, vous parlez d'institutions européennes, une question qui est une parenthèse, Carlos Kenan, le Mercosur aussi dispose déjà d'institutions type forum consultatif économique et social, secrétariat administratif. Elles fonctionnent, ces institutions, elles sont déjà opérationnelles ou opérantes pour se mettre en route là depuis la signature de l'accord.
Elles sont déjà opérantes depuis longtemps. Et ce qui a, disons, amoindri l'importance de ces institutions-là, ça a été que, au plus haut niveau, au niveau politique, les niveaux d'échange, de convergence et d'interaction des présidents de la République, notamment, a beaucoup diminué au cours de ces dernières années, traversé par ces polarisations qui affectent les sociétés et la politique de tous les pays latino-américains et plus généralement dans de nombreux pays du monde occidental. Donc là, à la différence des périodes précédentes où on pouvait avoir un président de gauche dans un pays et un autre de droite, je pense à la période président Menem avec Cardoso, Lula ultérieurement avec Kirchner, certes, il y avait plus de convergence, mais Macri, avec le président brésilien, Macri en Argentine, il n'y avait pas de gros problèmes. Alors que, vous l'avez rappelé, Alberto Fernández et Bolsonaro, ou Milei et Lula, et là, il n'y a pas vraiment de dialogue. Mais ces instances existent, et tout en étant légères, parce que le Mercosur n'a pas un cadre institutionnel aussi lourd, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est à mi-chemin, s'appelle marché commun du Sud, mais est une union douanière incomplète, et là, les divergences importantes sont que Milei voudrait que ce soit simplement une zone de libre-échange et pas plus.
Kevin Partenay.
Ça va peut-être avoir un effet de réactivation justement de ces institutions régionales. On voit qu'elles sont en sommeil quand même depuis plusieurs années pour les raisons que Carlos précisait, justement fragmentation politique, polarisation. Donc elles étaient là, elles faisaient un travail de coordination technique mais à minima, on va dire en sommeil. Et là, l'accord peut très, très directement avoir créer un coup de boost pour réveiller ces organisations et la coopération régionale de manière plus générale.
Peut-être une petite conclusion avant d'entendre un focus sur les liens qui unissent les cinémas européens et sud-américains. Sur cette, alors vous avez tous les deux parlé de ces valeurs communes qu'on met en avant. Alors il y a une part de discours, il y a une part de réalité, mais beaucoup de discours aussi sur ces valeurs communes, cette volonté de préserver un ordre multilatéral, de faire prévaloir le dialogue sur la brutalité. Mais encore une fois, pas pour tout le monde. Et au-delà du simple Mercosur, Kevin Partenay, il y a aussi de plus en plus, enfin là, en ce moment, si on fait un instantané du continent latino-américain, beaucoup d'élus, de personnes qui ont été élues très récemment, pour qui le seul horizon valable, au contraire, c'est approfondir encore les partenariats qui existent avec les États-Unis. Et l'Europe, c'est plus que secondaire.
Alors, oui et non, dans le sens où, effectivement, on est dans un contexte où la fenêtre vers Washington semble s'imposer, parce que l'administration Trump détermine un cadre où c'est la loyauté absolue qui prime. Et en l'occurrence, si les États latino-américains ne veulent pas être trop impactés, il faut justement avoir cette relation très directe. Alors, le côté non de la réponse, c'est que malgré tout, en dépit de ce contexte-là, on a une ouverture quand même vers un marché qui va être nécessaire pour les latino-américains, qui contribue à cette diversification et qui les protège pour limiter cette vulnérabilité qui existe dans le schéma imposé par Trump.
Et y compris pour la Bolivie qui a rejoint le Mercosur en 2024 et de la part du tout nouveau président bolivien, cette phrase n'aurait jamais été possible il y a 10-15 ans. Rodrigo Ras Pereira et sa promesse du capitalisme pour tous, on en avait parlé dans une émission dans Culture Monde.
Vai, meu irmão, pegue esse avião. Você tem razão de correr assim desse fim. beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. É de perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pros da pesada diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa.
Tokino et Chico Buarque, Samba de Orly, les chanteurs brésiliens qui parlent d'un homme qui se réfugie en Europe pour fuir la dictature et qui arrive à l'aéroport d'Orly. C'est une chanson de 73, évidemment, un contexte politique qui n'a rien à voir à une époque où l'Europe aussi essayait peut-être davantage de se poser en donneuse de leçons. Voilà, le contexte s'y prêtait peut-être plus. En tout cas, vous écoutez Culture Monde, c'est le premier épisode de notre série sur l'opération séduction de l'Europe pour trouver de nouveaux partenaires. Aujourd'hui, l'Amérique latine, avec qui l'on se targue de partager non seulement désormais du bœuf, du soja ou des voitures, mais également des valeurs communes. Exemple avec le cinéma, les deux continents se sont rapprochés de longue date sur grand écran.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le cinéma, un secteur où auteurs latino-américains et producteurs européens s'attachent depuis des années à faire contrepoids à l'hégémonie hollywoodienne. Je laisse la parole à Barthélémy Gaillard de Culture Monde qui a réalisé cet entretien.
Bonjour Julia Mio-Guilouet.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités à CY Sergi Paris Université, autrice de plusieurs articles sur le cinéma latino-américain, dont le plus récent s'intitule « Solidarité dans la concurrence, les relations cinématographiques Europe-Amérique latine au XXIe siècle ». Paru dans la revue Hermès en 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que l'Europe et l'Amérique latine ont commencé à tisser des liens sur le plan cinématographique ?
Oui, alors les liens sont vraiment très très anciens. En fait, on peut démarrer pratiquement au moment de la naissance du cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, les enjeux qui étaient au départ plutôt économiques et industriels vont aussi devenir des enjeux de diplomatie d'influence et des enjeux de représentation et de rayonnement. En fait, au départ, dès les premières années, les frères Lumière, qui étaient donc l'inventeur du cinématographe, ont dépêché dans diverses régions du monde, et notamment en Amérique latine, des représentants de leur maison industrielle. Leur but était de vendre des caméras qui, à l'époque, étaient à la fois enregistreuses et diffuseuses d'images. Et donc, par le biais de ces représentants, l'Amérique latine a très tôt reçu le cinéma français et européen, qui est resté dominant en termes de diffusion sur les écrans du sous-continent jusqu'à la Première Guerre mondiale, en particulier à travers l'influence italienne et française.
Donc c'est là qu'une bascule s'opère et que j'imagine le cinéma états-unien et donc hollywoodien prend le dessus en Amérique latine, c'est ça ?
Absolument, il y a eu une éclipse pour des raisons assez évidentes de mobilisation des moyens et de guerre au milieu des années 10 et jusqu'à la fin des années 10. Et donc par conséquent, les États-Unis ont profité de ce vide laissé par le cinéma européen pour les supplanter de façon durable et jusqu'à aujourd'hui sur les écrans latino-américains. Et ce qui est quand même intéressant à dire de ce point de vue, c'est que si effectivement le cinéma hollywoodien est désormais absolument majoritaire sur les écrans là-bas, mais comme beaucoup d'endroits du monde, les grands pays producteurs en Amérique latine, donc on peut penser à l'Argentine, au Mexique et au Brésil, ont réussi à mettre néanmoins sur pied une industrie locale fondée sur des studios dont le modèle était inspiré des grands studios hollywoodiens, mais qu'ils ont été également capables d'acclimater aux nécessités d'une expression de culture locale, les grands genres du cinéma hollywoodien. Donc on peut penser par exemple à la chanchada, qui est un genre typiquement brésilien, ou à ce qu'on appelle la comedia ranchera au Mexique, qui sont vraiment des genres qui n'existent que dans ces pays-là et qui, évidemment, n'existent pas aux États-Unis.
Et au-delà de cette capacité à décliner un modèle hollywoodien avec des références culturelles nationales, ce qui me semble aussi intéressant pour revenir à la relation avec l'Europe, c'est la capacité dans les années 60 des cinéastes latino-américains à se réemparer d'inspiration européenne. J'entends par là la nouvelle vague française ou le néo-réalisme italien. Est-ce qu'il faut y voir évidemment un intérêt artistique, mais aussi une démarche peut-être plus politique, justement, de volonté de se défaire d'une influence états-unienne ?
Alors absolument, et d'ailleurs le fait d'aller chercher une forme de légitimation du côté côté de l'Europe, elle ne date pas des années 60, puisque déjà dans les années 40, le Festival de Cannes était un peu le passage obligé pour les grandes cinématographies latino-américaines qui recherchaient la reconnaissance. Il y a eu notamment le Mexique qui a envoyé par exemple le film Maria Candelaria qui a été primé lors de la première édition du Festival de Cannes en 46. Mais c'est vrai qu'avec l'essoufflement quand même de ce modèle traditionnel du cinéma de studio et un peu de l'usine à rêve en Amérique latine, les jeunes cinéastes et critiques de cinéma latino-américains, à la fin des années 50 et au début des années 60, suivant un petit peu le modèle des jeunes turcs de la nouvelle vague et des cahiers du cinéma, vont se retourner vers l'Europe, puisque ça aura l'intérêt stratégique pour eux de leur permettre de tourner le dos à Hollywood, tout en allant chercher des modèles d'expression alternatifs, sur le double plan d'une économie du cinéma beaucoup plus légère, et donc qui leur permettait de s'affranchir de la dépendance des financeurs et des grands studios, mais aussi bien sûr du renouvellement des contenus, avec un cinéma qui, précisément parce qu'il sort des studios, va essayer d'aller documenter la réalité locale, sur fond quand même de grandes vagues révolutionnaires. Je rappelle que la révolution cubaine, c'est le 1er janvier 59.
Et de ce point de vue-ci, voilà, vous soulignez la manière dont ces influences européennes permettent de sortir de l'industrie hollywoodienne des studios. Néanmoins, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que côté européen, au-delà des pures influences artistiques, la France et l'Espagne tout particulièrement, si je ne me trompe pas, vont proposer des instances culturelles de subventionnement, une sorte d'industrie parallèle du cinéma qui va subventionner le cinéma latino-américain. À partir de quand est-ce que ça se développe? Et là aussi, est-ce qu'il faut y voir une intention, certes culturelle, mais aussi politique de rapprochement?
Alors absolument. L'industrie dominante qui passe désormais par les grands canaux de télévision commerciale dans les grands pays producteurs, elle existe toujours. Donc il n'est pas question de la supplanter. Mais en revanche, ce qu'on a vu apparaître, en particulier dans les années 80 et les années 90, à la faveur des grands débats sur lesquels la France a été clairement un fer de lance, d'abord de l'exception culturelle, au milieu des années 90, puis de la diversité culturelle qu'elle a réussi à apporter à l'UNESCO dans la première moitié des années 2000, on a vu émerger des initiatives effectivement de financement par le biais de la coproduction. Et c'est vrai que les deux pays qui ont été les plus actifs dans ce domaine-là sont la France pour des questions de rayonnement culturel et l'Espagne sans doute aussi pour des questions de liens historiques culturels très anciens avec l'Amérique latine, qui ont mis en place des fonds de soutien qui ont permis de faire émerger et de soutenir un cinéma dit plus indépendant, qui a aussi eu pour conséquence de faire non seulement émerger la production mais aussi la diffusion de films de jeunes cinéastes en Amérique latine. Donc je pense par exemple à Lucrecia Martel en Argentine, qui a vraiment tout à fait bénéficié parmi d'autres de ces fonds de soutien qui ont permis effectivement de positionner un autre cinéma qui existait et se développait en marge du cinéma hégémonique.
Et de ce point de vue-ci, est-ce que ces institutions aujourd'hui, pour revenir au temps présent, qui financent les institutions européennes, qui financent le cinéma latino-américain, quelle part, quel rôle elles jouent dans la production cinématographique actuelle? Est-ce que c'est extrêmement important en termes de masse, tout simplement?
La question qui se pose, c'est la question du succès du succès, y compris économique, que peuvent avoir les films qui sont produits dans ces circuits. Donc effectivement, en termes de masse, j'ai envie de vous dire, c'est forcément pas grand-chose, puisque les films produits dans ces circuits-là, ce sont pas les films qui vont occuper les plus hautes places dans les box-office nationaux. Mais néanmoins, j'ai eu l'occasion dans mes travaux de regarder un petit peu en détail justement ces questions de succès pour essayer de les appréhender un peu différemment. Si on regarde la structuration de la distribution et de la diffusion du cinéma, par exemple en Argentine, qui est le pays sur lequel j'ai le plus travaillé, on peut remarquer que par exemple un film coproduit par le Fonds Sud qui s'appelle El Custodio, l'escorte en français, il est sorti en 2006 en Argentine. Au moment de sa sortie, il était le 9e film du box-office sur une année où le film en avait sorti 58. Donc il s'en est vraiment bien sorti commercialement. Il a fait 55 000 entrées. Quand il est sorti en France, il a fait environ 30 000 entrées. Donc c'est pas des films évidemment qui ont une pertinence massive sur les écrans, mais ils sont quand même là et ils font des entrées, ils sont vus.
Et par ailleurs, vous avez l'air de souligner qu'ils ont quand même une audience quasiment similaire d'un pays à l'autre. Et est-ce qu'il faut y voir aussi, quelque part, le fait que ces films s'adressent à un public qui apprécie le cinéma d'auteur, qui existe tant du côté français que du côté argentin, donc finalement à une petite minorité, mais qui serait révélatrice des proximités culturelles qu'il y a entre l'Argentine et la France, par exemple?
Alors absolument, c'est vrai pour les professionnels du cinéma, pour les cinéastes et pour les producteurs qui, autant en Amérique latine qu'en Europe, en fait, suivent le même type de formation et ont donc assez logiquement les mêmes aspirations en termes de carrière et de projection professionnelle. Mais c'est vrai aussi, effectivement, pour les publics qui sont voilà, des publics éduqués, qui aiment voir un cinéma de la diversité. Mais j'ai envie de dire que c'est vrai aussi du point de vue du tissu économique que ça génère. Parce qu'en fait, on est en train de parler aussi d'un cinéma qui fait vivre des entreprises de taille petite et moyenne, souvent plutôt petites, mais qui sont assez nombreuses et diversifiées. Donc, la question de la diversité, elle vaut bien sûr sur les contenus, elle vaut sur la représentation, mais elle vaut aussi sur le tissu économique. Et je pense que c'est très important d'arriver aussi à valoriser ces alliances créatives, en fait, et de pluraliser un petit peu les points de vue et les appréhensions qu'on peut en avoir.
Et est-ce que ça l'est d'autant plus dans une phase où le continent latino-américain connaît une vague de succès de gouvernements de droite qui, pour certains, les plus libertariens d'entre eux, et je pense à Javier Milei en Argentine, ne sont pas des grands partisans des financements publics?
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, l'une des premières mesures qu'a prise Milei dans le domaine de la culture, c'est de s'attaquer à l'INCA, qui est l'Institut National du Cinéma, qui a justement été construit en essayant de suivre le modèle du CNC. Il a supprimé des emplois, il a limité les subventions, il a limité la part réservée aux films nationaux sur les écrans. Donc, c'est absolument catastrophique pour le cinéma argentin. Donc, je pense qu'effectivement, ces dispositifs, à l'heure actuelle, ils sont d'autant plus importants que les dispositifs publics de soutien sont menacés en Amérique latine. Ils sont d'autant plus importants qu'ils sont finalement assez peu coûteux et ils sont d'autant plus importants qu'ils participent vraiment de ce rayonnement de l'Europe et sa capacité à se positionner quand même comme un endroit où on respire encore la culture et la diversité.
Et si on se veut critique ou en tout cas réfléchir à ce que produit ces subventions étrangères, européennes en l'occurrence, sur un cinéma latino-américain, est-ce qu'il y a une vision du monde à laquelle les financeurs seraient sensibles et est-ce que finalement les réalisateurs latino-américains ne seraient pas tentés de se conformer ou de devancer ces attentes de leurs mécènes européens? Est-ce que ça a un impact sur le contenu des films latino-américains?
C'est une question hyper délicate et vraiment extrêmement complexe à appréhender. C'est bien évident que tous ces fonds de soutien, les festivals, ils ont des horizons d'attente. Et la diversité, telle qu'on l'entend depuis l'Europe, ça veut dire montrer une certaine forme de réalité du pays dont procèdent les films. Donc ça veut dire s'intéresser à la réalité sociale, s'intéresser à la réalité culturelle, s'intéresser aux communautés autochtones, s'intéresser à tout un tas de phénomènes qui ne sont pas forcément visibilisés par le cinéma mainstream, dominant et commercial. Mais il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites à ces dispositifs en disant qu'ils contraindraient d'une certaine manière les cinéastes ou les créateurs d'Amérique latine à se conformer à ces attentes. Mais les gens sont beaucoup plus malins que ce qu'on s'imagine. Alors je pense à un exemple en particulier, c'est un cinéaste argentin qui présente un film au Fonds Sud dans les années 90-2000. Et son film, lui, il veut faire une comédie. Mais une comédie, bien sûr, sur fond de crise sociale en Argentine, etc. Donc, ce qu'il fait, de façon extrêmement astucieuse, c'est qu'il transforme un tout petit peu, alors il ment pas, mais il transforme un tout petit peu son synopsis en insistant vraiment sur le côté arrière-fond social et en ne disant pas trop que c'est une comédie. Il obtient l'aide. Et à la fin, il fait sa comédie. C'est un film qui a très bien marché. Donc, en fait, tout le monde y gagne.
Est-ce qu'aujourd'hui, entre d'une part des auteurs latino-américains et d'autre part des mécènes, producteurs européens, est-ce que les uns ont autant besoin des autres et vice-versa? Est-ce qu'il y a un rapport égal qui s'est institué ces dernières années?
Alors, je ne sais pas si on peut arriver vraiment à un rapport d'égalité. C'est celle-là aussi, c'est une question qui est extrêmement délicate et complexe. Mais néanmoins, ce qui est bien évident, c'est que les choses sont toujours beaucoup plus ambivalentes et contradictoires que ce qu'on pourrait s'imaginer en arrivant là-dedans avec des préjugés sur les rapports de domination, le néocolonialisme, etc. Les choses sont bien plus ambivalentes. Et en réalité, si les producteurs et les cinéastes latino-américains ont besoin de l'Europe, mais les producteurs européens qui sont sur ces créneaux-là, ils ont tout autant besoin des projets latino-américains pour faire vivre leur société sur le plan économique, et puis pour faire vivre également leur catalogue. Donc je pense que c'est quand même là aussi, c'est jamais des jeux à somme nulle, et c'est vraiment des relations dans lesquelles tous les gens avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir quand je faisais ma recherche, faisaient preuve vraiment d'un engagement éthique extrêmement fort vis-à-vis des projets qu'ils soutenaient. Et donc je pense que, bon, l'égalité, c'est peut-être quelque chose d'un peu utopique, mais c'est en tout cas quelque chose qui est très 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 clairement vécu par les acteurs du secteur.
Merci beaucoup, Julie Amiot-Guilouet. Je rappelle que vous êtes donc professeure des universités à CYC Sergi Paris Université, et on mettra donc sur le site la référence de votre article « Solidarité dans la concurrence, les relations cinématographiques Europe-Amérique latine au XXIe siècle » paru dans la revue Hermès. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci Barthélémy Gaillard. Nous mettrons aussi les références des ouvrages de nos invités Kevin Partenay et Carlos Kenan. Kevin Partenay, politique de l'Amérique latine, un ouvrage que vous avez copublié chez Larcy avec Frédéric Louot en 2023. Carlos Kenan, éducation numérique et politique publique, regard croisé Europe-Amérique Amérique latine avec Émilie Raymond. C'est un livre que vous avez co-dirigé ensemble aux éditions de l'IHEL. Vous êtes président de l'Institut des Amériques, dont Jean-Michel Blanquer aussi a été président. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais surprise, mais c'est Mélanie Chalandon qui m'a rappelé qu'il avait été président de cet institut et qu'il est spécialiste de la Colombie. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
L'Éthiopie somme l'Érythrée de retirer immédiatement ses troupes de son territoire, Catherine.
Une guerre des mots avant peut-être de refaire parler les armes. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères dénonce l'incursion de troupes érythréennes et leurs manœuvres récentes avec des groupes rebelles éthiopiens, rapporte The Ethiopian Reporter et Jeune Afrique. Le gouvernement érythréen a choisi la voie d'une escalade, regrette encore Addis Abeba, tandis que l'Érythrée dénonce, elle, l'attitude belliqueuse de son puissant voisin éthiopien qui compte 130 millions d'habitants, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, mais privé d'accès à la mer. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, est obsédé par la mer Rouge, accuse le journal érythréen Adas Ertra, contrôlé par le gouvernement à Asmara. Et ce qui se joue aujourd'hui, note la BBC et la Deutsche Welle, c'est un énième retournement d'alliance dans la région. Les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui s'est séparée de son voisin il y a une trentaine d'années, sont anciennes, rappelle la BBC. Les deux pays se sont affrontés lors d'une guerre frontalière entre 1998 et 2000, qui a fait plus de 100 000 morts. L'accord de paix n'a jamais été pleinement appliqué et les deux pays se sont alliés lors de la dernière guerre civile en Éthiopie. L'Érythrée a soutenu le gouvernement éthiopien contre les séparatistes du Tigré, une région du nord de l'Éthiopie d'environ 6 millions d'habitants, située à la frontière avec l'Érythrée, précise la Deutsche Welle, au moins 600 000 morts entre 2020 et 2022. Mais aujourd'hui, tandis que l'Éthiopie enclavée lorgne sur le port d'Assab, qui appartient désormais à l'Érythrée, les cartes sont rebattues. Pour la première fois, le premier ministre éthiopien a accusé l'Érythrée d'avoir commis des atrocités durant la guerre du Tigré, rapporte le journal éthiopien Addis Standard et la BBC. Et dans ce nouveau jeu d'alliance, d'anciens ennemis se rapprochent, ajoute la Deutsche Welle. Les rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré, les Fano, milices de l'ethnie Amhara et l'Érythrée, sont désormais unis contre le gouvernement éthiopien. Dans les montagnes qui bordent la région du Tigré, une nouvelle armée se forme, raconte Channel 4 News. Des soldats qui combattaient autrefois le gouvernement éthiopien ont aujourd'hui changé de camp. Ces membres de la Tigray Peace Force, force de paix tigréenne, soutiennent désormais le gouvernement d'Addis Abeba. Un changement assumé par Guénette qui combat, elle, depuis 4 ans. Elle se sent trahie par le Front de Libération du Peuple du Tigré. J'avais 16 ans quand je me suis engagée. Je ne comprenais rien à la politique. J'ai été blessée ensuite par une frappe de drone en 2021 et j'ai encore une balle dans la tête. Mais aujourd'hui, les chefs du Tigré ne s'occupent que de leur propre pouvoir, accuse devant la caméra de Channel 4 News Guénette, une combattante âgée aujourd'hui de 20 ans. Nous avons subi de lourdes pertes pendant la guerre, dit-elle encore. Mais nos dirigeants se moquent de nos sacrifices. Au Tigré, ce que nous voulons, c'est le progrès et pas la guerre, parce que nous n'avons rien à y gagner. La chaîne britannique Channel 4 News a également rencontré l'une des chefs de cette Tigray Peace Force, la générale Zodou Kiros, qui pense malgré tout qu'une guerre est inévitable entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Certains Éthiopiens en perdent le sommeil, raconte la BBC, notamment des agriculteurs qui ont vu les ravages causés par la guerre. Ils se demandent s'ils pourront effectuer leur récolte cette année ou bien si les armes vont de nouveau les en empêcher. Des tensions politiques, un cycle de violence dont les plus vulnérables font les frais, les civils, mais aussi des candidats à l'exil, régulièrement victimes de trafic d'êtres humains, de violences sexuelles, de tortures, rapporte le journal Addis Standard et la Deutsche Welle. Un passeur a par exemple été extradé d'Éthiopie vers les Pays-Bas où résident certaines familles de ces victimes qui subissaient des pressions pour payer une rançon et obtenir la fin des violences sur leurs proches. Ce passeur a été condamné à 20 ans de prison fin janvier dans un procès notamment suivi par les quotidiens néerlandais Telegraaf et Volkskrant. Le tribunal a souligné la cruauté absolue de ce passeur extradé d'Éthiopie.
En Thaïlande, Catherine, d'autres tensions frontalières ont pesé sur les élections législatives.
Avec la victoire du parti conservateur, le Bhumjaithai a obtenu le plus grand nombre de sièges à la Chambre basse, annoncent les quotidiens Thaïrat et Bangkok Post. Le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a su capitaliser sur le fort sentiment nationaliste en Thaïlande, analyse le Financial Times, et notamment dans l'est du pays d'où il est originaire, une zone marquée par les tensions frontalières avec le Cambodge et les affrontements meurtriers de l'an dernier, rappelle Nikkei Asia. Le parti conservateur progresse dans toute la Thaïlande, sauf dans la capitale Bangkok, où les réformistes du Parti du Peuple ont remporté les 33 sièges disponibles, note le Financial Times. Ce parti populaire est le successeur du parti Move Forward, désormais dissous alors qu'il avait remporté les précédentes élections en 2023. Cette fois-ci, le parti a adouci sa position intransigeante vis-à-vis de l'armée notamment et des institutions qui exercent une influence sur la politique thaïlandaise. À voir si ce parti progressiste participera à une nouvelle coalition aux côtés du parti conservateur.
Et je renvoie à ce sujet d'ailleurs au retour de terrain de vendredi dans le Culture Monde, Guillaume Pajot, reçu par Mélanie Chalandon. Il revenait de la capitale Rangoon. Merci beaucoup Catherine Dutu.